le journal de la rédaction avec vous, Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Florian, bonjour à tous. Près de 300 combattants du groupe État islamique en Syrie ont été remis à l'Irak. Parmi eux, il y aurait 14 djihadistes français, alors qu'Emmanuel Macron reçoit ce lundi justement son homologue irakien à l'Élysée. Les détails dans un instant.
Et puis nous irons aussi au Vatican, où le pape François a promis une législation pour lutter contre les abus sexuels sur mineurs. Pour le moment, rien de concret. Au grand regret des victimes, vous les entendrez.
Quel rôle vont jouer les États-Unis au Venezuela, alors que l'aide humanitaire ne peut toujours pas y entrer? Une réunion se tient aujourd'hui à Bogota avec l'opposant Juan Guaido et le vice-président américain Mike Pence. Analyse à suivre.
Et puis nous ferons un point aussi sur le palmarès des Oscars 2019. Green Book et Roma sont les grands gagnants. La diversité l'a emporté, en apparence en tout cas, vous le comprendrez.
Stéphane Robert nous rejoindra après ce journal pour son billet politique. Il est consacré ce matin au ballon d'essai en politique. Serait-ce le début d'un rapatriement? Les forces démocratiques syriennes qui combattent le groupe État islamique en Syrie avec l'appui de la coalition internationale, ces FDS, auraient donc remis à l'Irak plus de 20 djihadistes étrangers, parmi eux 14 français. C'est l'agence de presse Reuters qui l'affirme et qui cite un officier irakien en poste près de la frontière syrienne. Il dit avoir supervisé le transfert de ces prisonniers. Voici les précisions chiffrées de Claude Guibal ce matin.
14 Français sur une vingtaine d'étrangers au milieu d'environ 150 djihadistes irakiens. Ce sont les FDS, les milices majoritairement kurdes soutenues par la coalition internationale qui les auraient livrés en fin de semaine aux Irakiens. Ce sont des sources militaires irakiennes qui l'affirment à l'agence Reuters. Les FDS l'ont encore rappelé hier, ils n'ont pas les moyens de garder sous leur surveillance tous les djihadistes étrangers capturés pendant l'opération de reconquête du nord et de l'est de la Syrie. Certains de ces djihadistes ont aussi combattu en Irak, notamment à Mossoul, et la France a plusieurs fois exprimé le souhait que ceux qui s'y sont rendus coupables de crimes soient jugés sur place. Pour la France et pour les autres pays européens, il est d'autant plus urgent de trouver une solution que Donald Trump fait pression sur eux pour qu'ils rapatrient leurs ressortissants, un sujet hautement sensible au moment où Européens et Américains négocient aussi la mise en place d'une force commune de stabilisation dans cette zone.
Un sujet qui sera peut-être abordé en privé aujourd'hui à l'Élysée. Emmanuel Macron reçoit le président irakien, justement Barham Saleh, un allié non négligeable dans une région stratégique, comme nous l'explique Bertrand Galichet.
L'Irak est redevenu un pivot et un pôle d'équilibre dans la région, disait le mois dernier Jean-Yves Le Drian lors d'une visite à Bagdad, un résumé du nouveau regard de la France sur ce pays auquel Paris vient d'accorder un prêt d'€1 milliard sur 4 ans. Malgré une situation encore fragile, car les attentats en Irak restent fréquents, la France mise sur cet indispensable allié dans la région entre Syrie, Turquie, Iran et Arabie Saoudite. En recevant aujourd'hui à l'Élysée le président irakien Barham Saleh, Emmanuel Macron ne se contentera pas de parler de questions sécuritaires. L'Irak revient au centre du jeu diplomatique régional et tente de s'émanciper des pressions opposées des États-Unis et de l'Iran. La reconstruction de l'Irak intéresse les entreprises françaises. Le président Macron pourrait se rendre à Bagdad d'ici quelques semaines. Un partenariat stratégique de coopération économique et militaire est déjà programmé. Le chef de l'État Barham Saleh, un modéré élu en octobre dernier, est un Kurde, une communauté avec laquelle la France entretient des liens étroits.
Ce lundi midi, Emmanuel Macron déjeunera donc avec le président irakien. Une conférence de presse conjointe est prévue en début d'après-midi. Sa parole était attendue, les mots employés ont été scrutés. Hier, le pape François a clos le sommet au Vatican consacré à la protection des mineurs, comprenez, contre la pédophilie dans l'Église catholique. Et il n'y a pas eu de surprise, malgré les attentes des victimes. Le pape a demandé une bataille totale contre les abus sexuels, mais il n'a pas annoncé d'acte fort et immédiat, Mathilde Imberti.
Les victimes auront pourtant été omniprésentes lors de ce sommet. Leurs témoignages poignants, durs et accusateurs diffusés aux évêques. Mais au vu de la conclusion offerte par le pape François hier, elles se sentent déçues. Piero Borgi est une victime italienne de l'association Ending Clerical Abuse.
À part des déclarations principes, comme d'habitude, il n'y a aucune mesure concrète. Que nous attendons surtout, c'est que le clergé commence à dénoncer ses coupables, qui ouvre ses archives, qui les met à disposition de la justice pour indiquer ce phénomène et pour réparer l'injustice. justice.
Le pape restait muet sur l'indemnisation des victimes. Il ne parle pas non plus de la transparence réclamée par la partie libérale de l'épiscopat. Pour le Britannique Peter Sanders, l'une des premières victimes à s'être fait entendre, c'est une perpétuation de la culture du silence.
Du point de vue de la protection des enfants, ce sommet, c'est du temps perdu. Le pape ne nous a pas apporté la garantie que les prêtres coupables et les évêques qui les couvrent seront écartés. Il échoue à protéger nos enfants.
Le Vatican a annoncé 3 mesures immédiates. La rédaction d'un vademécum sur les procédures à suivre pour les évêques, un texte spécifique sur ce thème pour la curie et l'envoi d'équipes d'experts dans les pays les plus en retard. D'autres mesures doivent suivre, néanmoins, promettent les organisateurs du sommet avec le temps. Ils repartent en réunion dès ce matin.
Mathilde Imberti depuis le Vatican pour France Culture. L'aide humanitaire est toujours bloquée aux entrées du Venezuela après un week-end de tensions. Les forces de sécurité du pays et des miliciens fidèles au président en exercice, Nicolas Maduro, ont violemment repoussé samedi des convois d'aide aux frontières. Ce lundi à Bogota, en Colombie, le groupe de Lima doit se réunir. Seront donc présents les représentants de 14 pays sud-américains, mais également le vice-président des États-Unis, Mike Pence. Il a déjà prévenu, Washington prendra des mesures concrètes pour mettre fin aux tensions. Mike Pence, qui s'entretiendra d'ailleurs à Bogota aujourd'hui avec l'opposant vénézuélien Juan Guaido, Valérie Crovin.
Juan Guaido est plus que jamais en position de force après les déclarations hier de Mike Pompeo via Twitter. Le secrétaire d'État américain a clairement fait comprendre qu'il fallait le soutenir, quitte à passer à l'acte pour permettre un retour à la démocratie au Venezuela. Comment les pays du groupe de Lima vont-ils réagir face à la pression exercée par les États-Unis ? Paula Vasquez, spécialiste du Venezuela.
Ce qu'il faut voir, si les pays du groupe de Lima seraient pour un positionnement plus musclé de la part des États-Unis. L'Amérique du Sud, qui n'a jamais subi une intervention militaire nord-américaine, c'était au Panama ou à Grenade, les interventions précédentes. Le Venezuela n'est pas une petite île de la Caraïbe.
Sur les 14 pays du groupe de Lima, 11 ont d'ores et déjà appelé un changement de régime, il en reste 3 favorables à Nicolas Maduro.
Qui reste avec lui ? Il reste la Bolivie, le Nicaragua et Cuba. Il est dans une position de faiblesse, Maduro, mais il est là sans céder du tout.
L'administration américaine dispose d'autres armes. Après avoir imposé de lourdes sanctions fin janvier à la principale compagnie pétrolière vénézuélienne, elle pourrait annoncer de nouvelles mesures de rétorsion pour faire plier Nicolas Maduro.
Cuba, nous venons de le souligner, est donc l'un des 3 pays du continent à soutenir Nicolas Maduro au Venezuela. Hier, pour renforcer le socialisme sur l'île, une nouvelle constitution a été proposée au peuple cubain par référendum. A priori, le oui devrait l'emporter. La réforme reconnaît notamment comme nécessaire la propriété privée et les investissements étrangers. La présidentielle au Sénégal connaîtra-t-elle un second tour ? Hier, en tout cas, les électeurs ont voté pour départager 72 candidats lors du premier tour. Le président sort Pourtant, Macky Sall revendique déjà la victoire ce matin, ce que conteste l'opposition.
8h08, la suite du journal sur France Culture avec vous, Clara Lecoq-Réal. Et nous en venons maintenant à ce procès qui doit se terminer cette semaine, celui de Mehdi Nemmouche à Bruxelles.
L'auteur présumé du quadruple assassinat commis en mai 2014 au musée juif de Bruxelles. Le réquisitoire est prévu aujourd'hui et demain avant les plaidoiries et de la défense. Antoine Marette est notre envoyé spécial à Bruxelles. Antoine, quels ont été les moments forts ?
De ce procès, on retiendra notamment les images de vidéosurveillance du musée juif de Belgique montrant l'attentat. Le tueur qui surgit et abat les 2 touristes israéliens dans l'entrée du bâtiment, puis qui tire sur le jeune employé belge de l'accueil qui s'écroule. La bénévole française qui a le temps de se recroqueviller derrière son bureau pour éviter les balles de revolver, mais qui est finalement abattue à la Kalachnikov. La scène muette dure moins de 2 minutes et est filmée sous plusieurs angles. Le silence est alors total dans la salle d'audience. De ce procès, on retiendra également les témoignages des 2 journalistes français retenus en otage pendant près d'un an en Syrie par l'organisation État islamique. Didier François et Nicolas Hénin ont évoqué leurs conditions de détention et les tortures dont ils ont été victimes. L'un de leurs geôliers se faisait appeler Abou Omar, sans doute le plus cruel, mais aussi le plus bavard, sadique, antisémite et narcissique. Et pour les 2 journalistes, il n'y a aucun doute, Abou Omar et Mehdi Nemmouche ne font qu'une seule et même personne. Mehdi Nemmouche, qui aura gardé jusqu'à aujourd'hui le silence, se contentant simplement de nier être l'auteur du quadruple assassinat, l'homme s'enferre dans ses dénégations, encouragé par ses avocats, qui, face aux preuves accablantes, dégaine une improbable théorie du complot impliquant le Mossad.
Antoine Marette, l'envoyé spécial de France Culture à Bruxelles. Mediapart veut assigner l'État pour faute lourde après la tentative de perquisition dans ses locaux. Le 4 février dernier, deux procureurs et trois policiers avaient voulu saisir des documents dans les locaux du média en ligne. Ils agissaient dans le cadre d'une enquête ouverte pour atteinte à la vie privée d'Alexandre Benalla et enregistrement illicite. L'impôt sur le revenu pour tous n'est pas à l'étude. Matignon s'est empressé de le faire savoir hier après les déclarations de la ministre de la Cohésion des Territoires. Jacqueline Gourault a suggéré hier matin de faire contribuer tout le monde à hauteur de ses moyens pour recréer le lien entre citoyens et impôts. Analyse de cette proposition immédiatement retoquée avec Stéphane Robert dans son billet politique après ce journal. Notons que 43% des Français s'acquittent aujourd'hui de l'impôt sur le revenu. Comment tester la fiabilité du vote électronique? En le testant grandeur nature, voici l'idée de la Suisse qui organise aujourd'hui un faux vote. Une récompense sera offerte aux pirates, aux hackers qui vont réussir à détourner le système du vote électronique, à la clé 132 000 euros environ. Les pirates ont un mois pour manipuler les suffrages et ils ont déjà commencé, Jérémy Lanche.
Le concours de hacking ne démarre qu'aujourd'hui, mais déjà le code source du système de vote développé par la Poste a fuité sur Internet. Alexis Roussel est membre et ancien président du parti pirate suisse.
On a des experts internationaux qui ont commencé à regarder et ils font des commentaires par rapport à ce code-là. Et puis on se rend compte que la qualité du code, ça préjuge pas de la sécurité du code, hein, mais que la qualité du code n'a pas été faite à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un logiciel de vote électronique.
Autre problème, encore plus préoccupant pour Alexis Roussel, c'est la centralisation du vote par Internet. Aujourd'hui, plusieurs systèmes existent en Suisse, mais à cause de leur coût élevé, celui testé par la Poste pourrait bien devenir le seul à être utilisé.
Les gens doivent accepter que le code source reste la propriété de la Poste et de l'entreprise qui l'a fabriqué. On a un problème vraiment idéologique, politique très très fort, c'est est-ce qu'on peut accepter qu'un système de vote électronique soit la propriété d'une entreprise privée.
Il reste quand même des garde-fous. En Suisse, on vote tout le temps, sur tous les sujets et sur tous les supports. Difficile dans ces conditions de modifier complètement les résultats d'un scrutin.
Le vote par Internet en Suisse est vraiment mélangé avec les différents canaux. C'est pas un seul et unique canal de vote. Ce qui fait que quand vous avez 20% de la population qui vote par Internet, 70% par la Poste, et puis 10% qui viennent à l'urne, mais en fait, vous pouvez comparer les résultats et voir qu'il n'y a pas de différence entre les différents canaux.
Les hackers ont jusqu'au 24 mars pour tester le dispositif. Un comité d'opposants demande lui un moratoire de 5 ans sur le vote électronique jusqu'à ce qu'il soit aussi sécurisé que le vote papier.
C'est en partie sur Internet que les quelques 8000 membres de l'Académie des Oscars ont pu voter ces dernières semaines et le palmarès a été annoncé cette nuit. 91e cérémonie qui a consacré Green Book sur les routes du Sud de Peter Farrelly, meilleur film de ce cru 2019. Il raconte l'histoire d'une amitié entre un pianiste noir et son chauffeur blanc dans les années 60 en pleine ségrégation. Roma, produit par Netflix et favori, remporte lui la statuette du meilleur réalisateur pour Alfonso Cuarón et du meilleur film étranger. Ce film mexicain évoque une femme de ménage au service d'une famille de la classe moyenne dans les années 70. Cécile de Kervas-Doué, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi la cérémonie pour France Culture cette nuit. La diversité était à l'honneur cette année. Preuve, Cécile, que l'Académie est vraiment entrée dans l'ère du politiquement correct.
Oui, et cette tendance a tellement marqué les mois précédents de la cérémonie que pour la première fois depuis 1989, les Oscars étaient privés de maître de cérémonie. Le comédien prévu avait finalement jeté l'éponge après la résurgence de vieux tweets jugés homophobes. Et l'Académie avait pourtant aussi voulu répondre aux critiques qui lui reprochent depuis des années de privilégier les artistes blancs. Le jury avait ainsi été renouvelé à 25% pour faire plus de place aux femmes et aux minorités. D'où sans doute ce palmarès 2019. Deux Noirs américains primés pour des seconds rôles. Un Oscar pour le scénario de Black Landsman, le film de Spike Lee qui raconte l'histoire d'un Noir qui s'infiltre au Ku Klux Klan. Un Oscar pour Rami Malek, le fils d'immigré égyptien en Californie qui incarne le chanteur homosexuel de Queen dans le biopic Bohemian Rhapsody. Trois Oscars pour le film du Mexicain Alfonso Cuarón, Roma, et bien sûr, vous l'avez dit, l'Oscar du meilleur film qui va à Green Book de Peter Farrelly. Green Book qui pourtant, dès sa nomination aux Oscars, avait soulevé des polémiques trop consensuelles. Cette histoire serait trop centrée sur l'histoire du blanc plutôt que sur celle de ces Green Book, ces livrets qui, jusqu'en 1966, indiquaient aux voyageurs noirs où ils avaient le droit ou non de voyager aux États-Unis. Pas étonnant, disent certains critiques, lorsque l'on voit que l'équipe du film venait récupérer l'Oscar cette nuit, et surtout une équipe de blancs. Preuve que, comme le dénonce le dernier rapport officiel sur la diversité à Hollywood, daté de 2017, preuve que les femmes et les minorités restent toujours sous-représentées aux commandes de l'industrie du film. Le réalisateur de Green Book a pourtant tenu à saluer son acteur Viggo Mortensen, qui en novembre, dans une interview, avait provoqué un scandale en prononçant le N-word, comme disent les Américains, comprenez le mot nègre, pour lequel il avait dû s'excuser maintes et maintes fois. Bref, toute la cérémonie des Oscars s'est donc étirée dans ce climat-là, avec des discours très militants sur la cause noire américaine et sur l'immigration. Il a fallu l'Oscar de la meilleure actrice à l'actrice britannique Olivia Colman pour son rôle dans La Favorite, afin de redonner un peu de légèreté et d'humour tout britannique à la soirée. Une soirée où la cause des femmes, en revanche, était étonnamment absente, sauf pour l'Oscar de la chanson remise à Lady Gaga pour Shallow dans le film A Star Is Born.
Lady Gaga à l'honneur cette nuit aux Oscars. Merci beaucoup Cécile de Kervas-Douai pour ce palmarès complet. Cette semaine commence donc en musique et sous le soleil. Ce lundi s'annonce ensoleillé et sec, d'où les départs de feu précoces ce week-end en Corse, ravageant plus de 1600 hectares de végétation. Comptez ce matin 6 degrés à Strasbourg, 7 à Lille, Nantes et Lyon, 8 degrés à Paris, 9 à Périgueux, 13 degrés à Marseille et à Ajaccio.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.